France Inter.
Et c'est l'heure du journal d'Éric Delvaux. Bonsoir Éric.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, de la pluie et du vent. La dépression Herminia s'abat sur l'ouest de la France. Nous irons à Rennes rejoindre notre envoyée spéciale Caroline Félix. Les pieds dans l'eau et déjà quelques sinistrés s'étonnent de ne pas avoir été alertés plus tôt. Nous serons ce soir à Mayotte où la rentrée des classes chaotique est prévue demain, un mois et demi après le passage du cyclone Chido. Nous verrons dans quel état d'esprit les élèves abordent cette nouvelle séquence. À la une également, au moins 22 morts, plus d'une centaine de blessés au sud-Liban, quand les forces israéliennes ont tiré sur une foule de Libanais qui voulaient rentrer ce matin dans leur village. Reportage à suivre d'Arthur Saradin au sud-Liban. Nous serons à Londres où Sir Paul McCartney s'inquiète de l'avenir des droits d'auteur des artistes confrontés à l'intelligence artificielle. Et puis en ski, un Français remporte une étape de la Coupe du Monde de slalom, l'exploit de Clément Noël à Kitzbühel en Autriche. Nous rejoindrons notre envoyé spécial Guillaume Batin. Et puis, pour le point météo ce soir, retenez que le Calvados, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, l'Orne et la Maine-et-Loire, le Maine-et-Loire, restent en vigilance orange crue jusqu'à demain. Alerte au vent dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Rhône. Céline Dacosta, ça va souffler donc.
Oui, on restera sous l'influence de la tempête Herminia avec un ciel encore bien perturbé et des averses pour le sud du pays.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Herminia, c'est d'habitude le nom d'un papillon nocturne. C'est aussi le nom donc de cette dépression qui s'abat sur l'ouest de l'Hexagone. Certains parleront donc d'effet papillon en voyant les crues comme on n'en a jamais vu depuis une quarantaine d'années. C'est le cas à Rennes et dans ses environs. Une centaine d'habitants ont dû être évacués. L'île et la Vilaine regorgent d'eau. Bonsoir Caroline Félix.
Bonsoir.
Envoyée spéciale de France Inter à Rennes. Après l'accalmie cet après-midi, il commence à pleuvoir à nouveau. Vous vous êtes rendu au bord du canal où certains Rennais se plaignent du manque d'informations.
Oui, à côté d'une immense flaque d'eau boueuse qui recouvre la moitié de la rue, il y a ce petit groupe de retraités, les bottes pleines de gadou. Colette habite au bord du canal, sa cave est inondée, elle n'a plus d'électricité ni de chauffage.
On trouve que la ville n'a pas fait son boulot, ils n'ont pas prévenu.
Pas prévenu du tout.
Ah oui, rien du tout. Ça nous est tombé dessus comme ça, rien. Ils sont venus cet après-midi nous apporter des parfums. Moi, je t'aurais dit, vous arrivez un peu tard.
Et Guillaume, son voisin en tenue de surf, dégage l'eau de sa cave avec la pompe qu'il a enfin pu remettre en route. Lui non plus n'a pas reçu de message de la mairie hier.
Non, non, pas de la commune spécialement. Notre assureur, oui, qui avait dit crue de la Vilaine. Mais à part ça, c'est tout.
Okay.
Mais on suivait les infos et puis on a bien vu hier que le niveau montait à une vitesse extrême. Donc voilà.
Et au-delà de la communication, ses voisins dénoncent aussi l'urbanisation du quartier qu'ils jugent excessive.
Ouais, surtout, ils arrêtent de construire un peu. Quoi. Surtout, par plaisance, là-bas, il y a des immeubles qui sont même pas finis. Ils sont dans l'eau déjà. Hein.
Ouais,
derrière la préfecture, c'est pareil. Hein.
Et ici, beaucoup de monde a été surpris par cette montée des eaux. Comme Thomas, il vient d'acheter une maison de ville au bord du canal. Son rez-de-chaussée est recouvert de 20 cm d'eau.
Je pensais que les berges nous protégeraient suffisamment, mais non, pas du tout. On savait qu'il y a déjà eu des inondations ici en 2000. On n'imaginait pas que ça viendrait si vite quand même. Quoi.
Et d'après la maire de Rennes, l'eau n'était jamais montée aussi haut depuis 1981.
Caroline Félix en direct de Rennes avec Raymond Albouy. Et au large de la Gironde, un plaisancier britannique de 73 ans qui naviguait seul et porté disparu dans l'Atlantique, balayé par ses tempêtes, Eowyn, puis la dépression Herminia. Autre conséquence de cette tempête, au Sable d'Olonne, le village du Vendée Globe a dû fermer au public ce matin. Aujourd'hui, deux skippers, Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer, bouclent leur tour du monde à la voile, 10e et 11e position. Bonsoir Martin Lange.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Leur arrivée est donc contrariée ce soir par cette tempête.
Oui, la tempête Herminia frappe de plein fouet les Sables d'Olonne, des rafales à 130 km/h, des vagues de plusieurs mètres. Dans ces conditions, impossible d'emprunter le célèbre chenal. Benjamin Dutreux, qui a passé la ligne un peu avant 17h, a donc été dérouté vers La Rochelle, à une soixantaine de kilomètres au sud. Les conditions de mer y sont plus clémentes et l'accès au port plus facile. Il devrait y débarquer vers 1h du matin. Clarisse Kremer, elle, est attendue dans la soirée sur la ligne d'arrivée arrivée. Elle ira également s'abriter à La Rochelle, même si elle ne pourra pas accéder au port. Elle ne pourra accéder au port que demain après-midi en raison de la marée. Des décisions inédites dans l'histoire du Vendée Globe, mais nécessaires selon Hubert Lemonnier, le directeur de la course.
C'est pas le tout de finir la course, ensuite amarrer le bateau. L'accès en sécurité au port des Sables d'Olonne, on le sait qu'il est compliqué. Et plusieurs fois, c'était très dangereux, on était en limite. Ben là, on se réserve le droit de ne pas jouer avec la limite. Là, on est encore dans l'inconnu. De ce qu'on voit à date, là, les fichiers météo pourraient aider à s'imaginer un retour jeudi dans la soirée.
Pas de remontée du chenal avant jeudi après-midi, donc pour Dutreux et Crémer, qui vont évidemment pouvoir mettre pied à terre en attendant le feu vert. Le village départ, lui, restera fermé demain toute la journée. Alors derrière eux, les plus proches poursuivants, l'Allemand Boris Herrmann et la Britannique Samantha Davis, ont ralenti ces dernières heures pour éviter la dépression. Ils ne débarqueront au Sable d'Olonne qu'en fin de semaine.
Voilà, je vous rappelle que Météo France multiplie les vigilances orange, alerte dans le Calvados, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, l'Orne et le Maine-et-Loire. Alerte au cru donc jusqu'à demain, alerte au vent dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Rhône. Depuis 18h, le Morbihan est passé en alerte pluie-inondation. Et puis je termine avec une autre alerte, vague et submersion, annoncée demain dans le Finistère et le Morbihan. À Mayotte, demain matin, ce sera une rentrée scolaire un peu chaotique. 30 collèges et lycées parmi les 33 pourront rouvrir avec 15 jours de retard, un mois et demi après le passage meurtrier du cyclone Chido. Dans le primaire, parmi les 221 écoles, une quarantaine resteront fermées et les élèves qui ne pourront pas être accueillis dans leurs écoles habituelles seront redirigés vers des établissements voisins. Dans quel état d'esprit se trouvent les élèves mahorais? Naomi Bonin et Virginie Lorda se sont rendus dans un quartier de Combani, c'est l'un des bidonvilles du centre de l'archipel.
Asna est au lycée en classe de première. Comme les autres jeunes ici, elle a tout perdu.
Personnellement, j'ai rien du tout. Il n'y a qu'une ma carte de bus que j'ai retrouvée.
Son habitation de tôle s'est envolée avec le cyclone.
Vous, est-ce que vous avez hâte de rentrer?
Pas du tout. J'aurais hâte si j'avais mes affaires. Mais là, je trouve que j'ai tout perdu. Du coup, je ne sais pas, je vais faire quoi à l'école ou je vais dire quoi à l'école.
Beaucoup d'enfants hésitent en fait entre la gêne de ne plus rien avoir comme affaires, vêtements présentables, fournitures scolaires et la joie quand même de retrouver leur classe.
Ça fait longtemps qu'on n'est pas là à l'école. On faisait des projets, c'était bien.
Je suis content parce que je vais faire le brevet, je vais travailler, mais je n'ai pas de cahier.
Le retour de la cantine scolaire réjouit aussi les plus jeunes. Qu'est-ce que tu aimes à l'école?
Je aime le déjeuner.
Le déjeuner.
Du jus et du biscuit.
Des biscuits.
Moi, j'ai envie de manger des goûters.
Ici, il n'y a ni électricité ni eau courante. Cette mère de famille revient de la fontaine, deux bidons dans les mains. Elle nous raconte le traumatisme de ses enfants un mois et demi après le passage du cyclone.
Moi, le mien, ils sont de père. Il y a des nuages, ils voient la pluie, commence à tomber. Moi, le cyclone va revenir. Je lui ai expliqué, c'est pas tous les jours qu'il y a un cycle.
Ils ont encore peur.
J'ai encore peur.
La plupart de ces familles l'assurent, l'école est essentielle, la clé pour un avenir meilleur. Un
reportage à Mayotte de Noémie Bonin. Au moins 22 morts au sud Liban, 124 blessés selon un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé. Quand plusieurs centaines d'habitants libanais ont tenté ce matin de retourner dans leur village, comme le prévoyait d'ailleurs le calendrier de retrait des troupes israéliennes, en vertu de l'accord qui a mis fin le 27 novembre à deux mois de guerre. Or, certains villages libanais sont toujours occupés par les forces israéliennes qui ont donc ouvert le feu ce matin sur les populations. Au sud Liban, reportage de notre correspondant Arthur Saradin.
La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux libanais. Une femme, seule, bras levé, défie l'armée israélienne dans un village du sud Liban. Ce que l'on entend derrière, ce sont des tirs de sommation tirés en direction d'une foule. La vidéo est devenue un symbole de ce retour en force des habitants libanais pour certains déplacés depuis plus d'un an. Dans une soixantaine de villages, chacun se filme, brandissant souvent le drapeau du Hezbollah ou faisant face aux canons des Merkava israéliens. Les seules armes visibles pour le moment sont du côté de l'armée libanaise. L'accord de cessez-le-feu veut justement que ce soit l'armée régulière qui prenne la place du Hezbollah dans le sud du pays. Depuis le sud du Liban, le député du Hezbollah, Hassan Fadlala, s'exprime à la télévision libanaise.
Ce sont les gens qui ont ouvert la voie à l'armée, eux qui ont libéré leur village. La persévérance de notre peuple est ce qui restera dans l'histoire.
Comprendre que le Hezbollah n'a pas joué sa carte militaire, mais veut garder son influence dans la région. À l'avenir, l'organisation aura en effet le droit d'exister en tant que parti politique, mais ses stocks d'armes au sud du pays devront être détruits. L'armée israélienne, quant à elle, devra cesser ses violations du territoire libanais, sans quoi le scénario de l'escalade pourrait encore se reproduire.
Arthur Saradin, au sud Liban. Si l'on en croit des sources palestiniennes, l'otage civil Arbel Yehoud, dont Israël exige la libération depuis hier, cet otage civil devrait rentrer chez elle la semaine prochaine en échange de 30 prisonniers palestiniens. Ces libérations de part et d'autre devraient intervenir avant le prochain échange prévu samedi. La défense aérienne israélienne sera bien représentée en juin prochain au salon du Bourget en France. C'est en tout cas ce qu'affirme aujourd'hui le Premier ministre israélien qui dit en avoir parlé ce matin au téléphone avec le président Macron. Il faut dire que l'année dernière, le président français avait refusé la présence israélienne à ce même salon. L'Élysée qui cet après-midi ne donne pas exactement la même version que celle de Benjamin Netanyahou aujourd'hui. La nouvelle demande israélienne pourrait être examinée favorablement, tant pour l'Élysée qui conditionne donc ce ticket d'entrée au Bourget au cessez-le-feu effectif à Gaza. Emmanuel Macron qui se rendra demain au mémorial de la Shoah à Paris et puis l'après-midi à Auschwitz en Pologne pour les cérémonies internationales du 80e anniversaire de la libération de ce camp de la mort nazi, le mémorial de la Shoah qui désormais poste ses archives et autres témoignages sur YouTube. À terme, un millier de vidéos pourraient être mises en ligne et le temps presse car les rescapés disparaissent peu à peu. Plus d'une centaine de témoignages sont déjà visionnables. Victor Vasseur.
Les rescapés témoignent face caméra, assis sur une chaise. Chaque entretien commence par une présentation.
Bonjour, alors moi je suis Yvette Lévy, née Dreyfus.
Des témoignages quasiment bruts, jusqu'à 4 heures. Pour certains, les souvenirs sont intacts.
C'était au jour le jour, et à 4 heures du matin, à Birkenau, quand on a une petite robe d'été, que vous n'avez pas dormi depuis 3 jours, vous êtes bien fatigué, vous avez froid, c'est l'horreur aussi.
Ces archives permettront d'alimenter des expositions, des documentaires, elles seront diffusées à l'école. Liore Lalieu est la responsable du service audiovisuel au mémorial de la Shoah.
80 ans après les faits, et il nous semble maintenant nécessaire que ces personnes, qui pour la plupart ont disparu, continuent à exister.
Des rescapés des camps et des ghettos témoignent, mais aussi des enfants cachés de la guerre, des justes et des résistants.
Ces personnes, a priori, ne viennent pas forcément au mémorial et dire « c'est bon, je suis prêt, je vais témoigner ». On nous les signale, ça va être un petit enfant, c'est souvent la troisième génération. On nous dit « mon grand-père a des choses à raconter, je voudrais vraiment qu'il puisse les dire ». Et ensuite, c'est à nous, en effet, de convaincre, de mettre la personne déjà dans une situation où il peut témoigner.
Une centaine d'entretiens sont enregistrés chaque année par le mémorial, qui espère rencontrer d'autres rescapés de la Shoah, qui, eux, n'ont jamais témoigné face caméra.
Les commémorations des 80 ans de la libération d'Auschwitz débuteront demain à 16h. Et puis, je vous renvoie à partir de 20h demain à l'émission spéciale sur France Inter présentée par Philippe Collin. Il sera en direct du mémorial de la Shoah à Paris, en présence des derniers témoins d'anciens déportés donc qui répondront aux questions de jeunes présents demain aux côtés de Philippe Collin. Rendez-vous donc sur Inter demain à partir de 20h. En politique, Édouard Philippe tisse sa toile en vue de la présidentielle. Il ne cache plus être candidat. L'ancien Premier ministre, maire du Havre, fondateur du parti Horizon, donnait son premier meeting aujourd'hui à Bordeaux. Et sans trop d'illusions, Édouard Philippe a apporté son soutien au gouvernement. Il appelle aussi au rassemblement des partis du bloc central sous une bannière commune, Julien Nenni.
Pendant près d'une heure, Édouard Philippe a pris son temps pour livrer sa vision du monde et des grandes priorités du pays, avant d'aborder, non sans humour, l'ambition qui l'anime depuis son départ de Matignon, conquérir l'Élysée en 2027.
2 ans. C'est long, 2 ans. D'autres l'ont dit avant moi. Il peut s'en passer des choses en 2 ans.
Référence au guignol de l'info qui, il y a 25 ans, parodiait ainsi Jacques Chirac après déjà une dissolution ratée. Succéder à Emmanuel Macron, dont il n'a jamais cité le nom, voilà le défi du favori des sondages. Pour ça, Édouard Philippe veut d'abord rassembler tous les partis du bloc central.
N'aurions-nous pas intérêt à constituer, sous une bannière commune, un bloc républicain et démocrate qui indiquerait clairement la volonté de gouverner ensemble ?
Des sociaux-démocrates aux républicains, une seule bannière, puis un seul candidat dans 2 ans. L'appel de Bordeaux, comme le surnomment déjà les proches du maire du Havre, est en tout cas lancé.
Et vous verrez, si déjà on se parle, qu'on constate qu'on est capable de s'entendre, ce sera peut-être plus facile après, peut-être.
Pour éviter une primaire, par exemple.
Oui, je voudrais faire en sorte qu'on puisse commencer à se parler pour des législatives éventuelles, pour des municipales qui sont certaines, et on verra ensuite.
En attendant, la stratégie d'Édouard Philippe ne changera pas. Une parole rare, loin du volcan de l'Assemblée, qui, à ses yeux, a déjà beaucoup abîmé l'image de ses futurs concurrents. Gabriel Attal en tête.
Julien Nenni à Bordeaux, où Édouard Philippe a aussi fait respecter cet après-midi une minute de silence à la mémoire de l'ancien maire LR de Bordeaux, Nicolas Florian, mort aujourd'hui. Il était à la tête de la ville en 2019 et 2020. Il a aussi été présenté à l'époque comme le dauphin d'Alain Juppé. Nicolas Florian avait 55 ans. Il a fait un AVC vendredi.
France Inter, Éric Delvaux.
Une réunion d'urgence de l'ONU cet après-midi, réunion consacrée au combat dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa dénonce une déclaration de guerre du Rwanda, ce Rwanda qui soutient les rebelles du mouvement M23. Les combats ne cessent de s'intensifier dans cette partie de la RDC. Protéger les artistes de l'intelligence artificielle. À Londres, l'appel de Paul McCartney qui estime que le gouvernement britannique va trop loin dans sa politique d'ouverture à l'IA pour l'ancien Beatles. Ce qui est en jeu, ce sont les droits d'auteur des artistes. À Londres, Emeline Vin.
Londres pourrait autoriser l'utilisation d'œuvres musicales pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle sans payer de droits d'auteur. Incompréhensible pour Paul McCartney, l'ancien guitariste des Beatles, interrogé par la BBC.
Ces jeunes qui écrivent de magnifiques chansons, elles ne vont plus leur appartenir. Quiconque pourra venir se les approprier. Or, il y a bien quelqu'un qui va s'enrichir dessus via les plateformes de streaming. Ce devrait être les auteurs, pas un géant de la tech on ne sait où.
L'exécutif se dit ouvert à la discussion, mais insiste sur l'opportunité économique. Le musicien de 82 ans l'admet, l'IA peut être un outil formidable. Lui-même l'a utilisé pour ressusciter la voix de John Lennon en 2023.
Nous avons pris une vieille cassette de John et nettoyé sa voix. On a l'impression que ça a été enregistré hier. Mais ça appartenait à John, qui était membre des Beatles, et c'est sa veuve qui nous l'a donné. Il n'y avait pas de problème de propriété intellectuelle, on ne l'a pas volé.
Autre légende de la musique britannique, Elton John a apporté son soutien à Paul McCartney. Le secteur de la musique génère près de 5 milliards d'euros chaque année pour le Royaume-Uni.
Emeline Vin, en ligne de Londres. En ski, le Français Clément Noël a remporté aujourd'hui le slalom de Kitzbühel. C'est en Autriche, étape de la Coupe du Monde. Le slalomeur français devient le plus titré de cette Coupe, Guillaume Batin.
Für Frankreich, Clément Noël!
Clément Noël remporte le slalom de Kitzbühel pour la deuxième fois de sa carrière, comme en 2019, quatrième de la première manche et à 3/10 seulement du Norvégien Timon Hogan, le Vosgien réalise le meilleur temps de la seconde manche.
Quand j'ai gagné en 2019, je ne me rendais pas forcément compte de la portée de Kitzbühel et de ce que ça représentait pour le monde du ski. Et je sais pas, en fait, elle est tellement bien, cette course, tellement bien organisée, tout est plus grand, tout est plus beau. Et donc aujourd'hui, forcément, hyper heureux de réussir à gagner ici parce que ça me tient à cœur, mais ça tient à cœur à tout le monde. C'est vraiment la course mythique, quoi.
De quoi rendre très fiers les nombreux supporters tricolores venus à Kitzbühel cette année encore.
On voit vraiment que c'est la Mecque du ski. Il y a la victoire de Clément et tout, et c'est magnifique.
C'était tellement beau, j'ai pleuré. C'est un surdoué. Faut le vivre au moins une fois dans sa vie pour s'en rendre compte.
La victoire de Clément Noël coïncide avec les chutes dans la course au petit globe de cristal du slalom du Norvégien Henrik Kristoffersen et du Suisse Loïc Meyer, premier et deuxième du classement. Clément Noël leur passe devant et occupe désormais la tête à 3 jours du prochain slalom en nocturne. Et dans une ambiance de stade de foot, toujours en Autriche, ce sera à Schladming.
Et puis en tennis, Yannick Sinner a remporté ce matin la finale de l'Open d'Australie. L'Italien numéro 1 mondial a donc battu le numéro 2, l'Allemand Alexander Zverev. Ça s'est passé en 3-7. C'était ce week-end, l'ultime Madeleine des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris avec des costumes des cérémonies d'ouverture mis en vente à Saint-Ouen, près de Paris. La toute dernière braderie des stocks de ces JO 2024, essentiellement des costumes de danseurs. Quelques accessoires aussi, de quoi ravir les Français venus chercher un dernier souvenir. Reportage d'Agathe Mahué.
Là, j'ai un petit gilet rose ravissant.
Tiré du premier tableau de la cérémonie La vie en rose.
Porter des choses qui ont une histoire, c'est un vrai plaisir en fait.
C'est vous qui êtes en train d'acheter cet énorme pop-corn ?
Exactement.
Un carton rouge et blanc, 80 cm de haut, rempli de faux pop-corn que portaient certaines mascottes, les friges.
Pour décorer une des chambres des filles.
Bah, c'est bien comme décoration.
Après nous, la cérémonie d'ouverture, il faut dire aussi que ça a été un peu compliqué parce que nous, on était sur les quais. Ah, donc voilà, c'est aussi ce souvenir-là qu'on achète.
70 euros le pop-corn, 1 euro pour une paire de chaussettes et jusqu'à 800 euros pour les pièces les plus iconiques, comme ces costumes phares, une trentaine de robes rouges ou noires de Marie-Antoinette, aperçues aux différentes fenêtres de la conciergerie.
On vient de craquer pour la robe de Marie-Antoinette.
Oui, mais elle est à 800 euros, celle-là.
Bah écoutez, oui, mais bon, c'est un morceau d'histoire. C'est un vrai moment de la cérémonie qui restera gravé dans nos mémoires. Donc je pense que ça les vaut.
Vous allez en faire quoi ?
C'est la bonne question. L'exposer chez moi ou... Je sais pas encore.
Guillaume Perrane, l'un des responsables des achats de ces JO.
C'était l'objectif d'avoir une seconde vie pour tout ce qu'on a acheté et qu'on n'a pas pu louer. Que tout puisse se resservir.
L'argent issu de ces ventes revient à Paris 2024. Mais à terme, les organisateurs l'assurent, il sera redistribué au monde sportif français.
Et voilà pour ce reportage d'Agathe Mahuet. Avant de retrouver Fabrice Lucchini, le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Et donc encore beaucoup de vent pour débuter la semaine.
Oui, alors ces vents vont quand même faiblir un petit peu par rapport à aujourd'hui. Ils seront bien présents quand même sur les côtes de la Manche et la façade atlantique. Sur la moitié nord, on passera doucement au ciel de traîne. Vous savez, ce ciel qui arrive après la perturbation avec nuages, éclaircies. Mais on aura encore beaucoup d'averses car cette traîne sera assez active. Pour la moitié sud, là on aura un ciel couvert, des averses soutenues du sud-ouest au nord-est. On notera également le retour de la neige en altitude sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. On attend également quelques coups de tonnerre en fin de journée sur le Pays Basque et les Alpes. Et puis on aura quand même un peu de soleil, pas beaucoup, hein, sur l'est de la Corse et un soleil voilé sur le Languedoc-Roussillon.
Et pour les températures ?
Les minimales iront de 4 à 10 degrés. Alors ça remonte un tout petit peu hein, par rapport à ce matin. Et pour les maximales, on ira de 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 10 à 18 pour la moitié sud.
Les prévisions de Céline Dacosta.